Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, à Lourdes et à Fatima, la Très Sainte Vierge nous a demandé, par l'intermédiaire des petits voyants et de la voyante de Lourdes, Sainte Bernadette, nous a demandé de prier et de faire pénitence. Eh bien, c'est ce que vous avez fait au cours de cette nuit, et c'est ce que vous faites au cours de ce pèlerinage. Priez et faire pénitence. Priez, vous l'avez fait tout au cours de cette nuit d'adoration, d'assistance à la Sainte Messe, de prière du rosaire. Pénitence, vous l'avez fait en venant jusqu'ici, en passant cette nuit de prière, ne considérant pas votre fatigue, et vous le faites aussi en supportant ce temps que le bon Dieu nous envoie, et il semble que Saint Nicolas de Flux veuille nous mettre dans un temps de pénitence, car ce n'est pas la première fois que nous subissons la pluie ici auprès de Saint Nicolas de Flux. Alors supportons cette pénitence, car nous avons de nombreuses raisons, de nombreux motifs de faire pénitence. Et je voudrais, pendant ces quelques instants, vous donner particulièrement trois intentions de prière et de pénitence. La première intention sera le synode de Rome, qui doit se tenir à la fin du mois de novembre et se conclure à la fête de l'Immaculée Conception. Nous avons à la fois, je dirais, un grand espoir et en même temps de grandes appréhensions. Nous avons un grand espoir parce que nous avons confiance en Dieu. Nous avons confiance en la Très Sainte Vierge Marie. Et nous espérons que les cardinaux réunis autour du pape à Rome prendront conscience de la gravité de la situation de l'Église aujourd'hui et retrouveront le chemin de la tradition. Car si des cardinaux, même comme le cardinal Ratzinger, exposent dans son livre la situation tragique de l'Église, il semble qu'ils ne voient pas le chemin qui doit reconduire l'Église à notre Seigneur Jésus-Christ, qui doit reconduire l'Église dans sa ferveur de toujours. Il n'y a pas d'autre chemin que celui de la tradition. Alors nous avons cependant espoir, parce que le bon Dieu est tout-puissant, que la grâce du bon Dieu peut agir grâce à vos prières, grâce à vos pénitences. Donc nous gardons espoir que quelques cardinaux parleront courageusement pour dire à toute l'Assemblée réunie à Rome, il faut revenir à la tradition. Qu'est-ce que la tradition? Sinon l'enseignement de l'Église pendant 20 siècles. On ne peut pas changer l'enseignement de l'Église qui a été enseigné pendant 20 siècles. C'est pourquoi nous souhaitons et nous espérons qu'en priant de tout notre cœur, en suppliant la Très Sainte Vierge Marie d'éclairer, d'envoyer l'Esprit Saint à cette assemblée réunie à Rome, nous espérons qu'ils comprendront qu'il faut revenir aux bonnes traditions de l'Église, au saint sacrifice de la messe de toujours, au sacrement de toujours, et à l'adoration et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la seule voie de salut. Voilà notre espoir. Et nous espérons que, grâce à votre prière et à vos sacrifices, le bon Dieu vous entendra et fera en sorte que ceux qui sont responsables de l'Église comprennent la nécessité du retour à la tradition. Je vous disais que, avec cette espérance, nous avions aussi beaucoup d'appréhension et d'anxiété. Parce que, semble-t-il, d'après les discours qui ont été prononcés à Rome par le secrétaire du synode, et qui depuis ont été prononcés également à Rome et publiés dans le journal de Rome, l'Observatore Romano, nous avons malheureusement l'impression que le désir de ceux qui ont parlé, qui ont écrit, est de tout simplement continuer les orientations qui ont été prises au Concile Vatican II et après le Concile Vatican II. Or, quelles sont ces orientations? Comment peut-on résumer l'orientation nouvelle que l'Église a prise depuis Vatican II? C'est l'œcuménisme, l'œcuménisme, qui veut dire avoir désormais une autre manière de voir les ennemis de l'Église, de les considérer comme des frères, d'avoir de bonnes relations et d'essayer de les comprendre, de leur faire plaisir, d'entretenir un dialogue avec les communistes, avec les francs-maçons, avec toutes les autres religions, fausses religions, avec les musulmans, avec les protestants, avec les juifs, avoir de bonnes relations avec toutes ces personnes qui ont toujours lutté contre l'Église, traditionnellement. Les musulmans, les juifs sont essentiellement anti-chrétiens, essentiellement contre notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont toujours lutté contre notre Seigneur. De même les francs-maçons, de même les communistes. Ils luttent contre le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils veulent le ruiner. Alors, pour avoir de bonnes relations avec toutes ces personnes, on a enlevé dans la Sainte Église tout ce qui pouvait leur faire de la peine, tout ce qui pouvait les gêner. C'est pour cela qu'on a appelé les protestants à venir exprimer leur désir au sujet du changement de la messe. Ils étaient présents lorsqu'on a changé la liturgie. Et ainsi, un grand changement s'est opéré depuis le Concile Vatican II, qui a pris une toute autre orientation que l'Église pendant 20 siècles. Quelle était l'orientation de l'Église pendant 20 siècles? Mais que seul notre Seigneur Jésus-Christ est notre roi, que seul notre Seigneur Jésus-Christ est le chemin du salut et le chemin du ciel, qu'il faut passer par notre Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Comme l'a dit notre Seigneur lui-même, « Je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie. » Personne ne peut entrer dans la bergerie sinon en passant par moi, qui suis la porte. « Ego sum ostium, je suis la porte de la bergerie. » Qu'est-ce que cela veut dire? « Je suis la porte du ciel. » Personne ne peut entrer au ciel sans passer par moi. Voilà ce que l'Église a toujours enseigné. Et c'est pourquoi l'Église a envoyé des missionnaires partout, dans le monde entier, pour dire aux musulmans, aux protestants, aux païens, à tous ceux qui ne connaissaient pas Jésus-Christ ou qui luttaient contre Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul moyen de vous sauver, de sauver vos âmes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors évidemment, ceux qui dirigeaient ces religions se sont précipités sur ces missionnaires et les ont massacrés, ont versé le sang des missionnaires, des apôtres. Tous les apôtres ont été martyrs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont annoncé notre Seigneur Jésus-Christ et qu'ils voulaient détruire les religions qui emprisonnaient les âmes et qui les conduisaient en enfer. Alors les apôtres ont dit « Non, vous ne devez plus croire à toutes ces fausses divinités. Venez à notre Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. C'est lui le seul sauveur, le seul salut. Tout solus altissimus, tout solus dominus, Jésus Christ. » Nous le chantons dans le Gloria. Voilà la véritable orientation de l'Église. Et alors maintenant, il semble qu'il faille taire cela, afin de ne pas être désagréable à ceux qui ont une autre religion. Ne plus parler de Jésus-Christ, parler de Dieu, parler des droits de l'homme, parler d'une certaine philanthropie, mais ne plus parler des droits de notre Seigneur Jésus-Christ, du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, c'est pour cela que nous sommes chrétiens. C'est pour étendre le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement au ciel, mais sur la terre. Que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est ce qui me fait peur. J'ai peur que l'on continue dans la même orientation, qui est une orientation qui détruit l'Église, qu'il a détruit de fond en comble. Parce que c'est notre foi, cela. On ne peut pas changer notre foi. On ne peut pas taire que notre Seigneur Jésus-Christ est notre roi, qu'il est notre seul Dieu, qu'il est la seule voie de salut. On ne peut pas taire cela, même si nous devons être persécutés, même si nous devons verser notre sang pour affirmer notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut prier pour qu'à Rome, il revienne à la véritable orientation de l'Église, qu'on ne change pas l'orientation de l'Église, qu'on ne change pas de chemin qui a été suivi par les apôtres, par les papes, par les conciles, par les saints, par les bons fidèles pendant 20 siècles, mais que nous continuions sur ce chemin. La deuxième intention se rapproche de cette première. Priez pour nos prêtres, pour nos séminaristes. Car ce sont eux maintenant qui doivent prendre le flambeau de la foi, le flambeau de la foi que les apôtres, que les saints, que les papes nous ont donné au cours des siècles. Ce sont ces jeunes prêtres, ces jeunes séminaristes, nos religieuses, qui doivent continuer à répandre le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, à réaliser le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ils ont besoin de grâces particulières aujourd'hui, dans ces temps difficiles, qu'ils gardent la foi et qu'ils vous donnent la vraie foi, qu'ils communiquent à vos enfants, à vos familles, la véritable religion de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce pourquoi je vous demande de prier. Vous savez que depuis que j'ai fondé la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, j'ai ordonné environ 250 prêtres. Sur ces 250, actuellement, 162 font partie de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. 162. Nous avons en plus 250 séminaristes. Une cinquantaine d'autres sont parmi les moines, moines de Flavigny, moines du Barou de Don Gérard, franciscains de Don Eugène, de la Fraternité de la Transfiguration de M. l'abbé Le Carreux, moines dominicains. Voilà les prêtres que j'ai ordonnés aussi, qui font partie de ces différentes congrégations et sociétés. Alors, je pense que c'est sur eux que repose maintenant le message de l'Église, le message de notre Seigneur, la continuité de l'Église catholique. Ce sont eux qui maintenant répartis à travers le monde, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, au Canada, dans toute l'Europe, en Australie, en Afrique du Sud, bientôt peut-être en Afrique équatoriale. Tous ces prêtres, nos prêtres qui sont répandus partout, soutenez-les de vos prières pour qu'ils demeurent fidèles, fidèles à l'enseignement qu'ils ont reçu, fidèles à la tradition de l'Église, fidèles au magistère de 20 siècles enseigné par l'Église, même s'il faut qu'ils versent leur sang pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandez à la Vierge Marie qu'elle les garde sous sa protection, qu'elle les maintienne dans la foi catholique, qu'ils ne changent pas de doctrine, qu'ils puissent dire comme saint Paul, « Tradidisti quod et accepi, je vous ai donné ce que j'ai reçu, et comme je voudrais pouvoir le dire moi-même à ma mort, Tradidisti quod et accepi, je vous ai donné ce que j'ai reçu, je vous ai transmis le message, les sacrements, le saint sacrifice de la messe, comme je les ai reçus. » Qu'ils puissent, eux aussi, ces jeunes prêtres, continuer à dire cela toute leur vie. Nous vous donnons ce que nous avons reçu et qui nous vient des apôtres et de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'on les confie à vos prières, pour eux et pour vous, car vous avez besoin de ces prêtres, de ces vrais prêtres qui disent la vraie messe, qui disent le vrai sacrifice de la messe. Vous en avez besoin, car vous avez besoin des grâces de notre Seigneur pour être sauvés, pour diriger vos enfants dans la voie du salut, chose qui n'est pas facile aujourd'hui. Alors je compte beaucoup sur vos prières afin que nous ayons toujours de bonnes vocations. Cette année particulièrement, il nous semble que les vocations vont encore augmenter. Nous avons habituellement 60 nouveaux séminaristes chaque année. 60. Hélas, au cours des années, il en part la moitié. Ce qui fait que nous pouvons ordonner plus ou moins chaque année 30 nouveaux prêtres. Alors, je les confie à vos prières et par l'intercession de la Vierge Marie afin qu'ils gardent la foi que nous leur avons transmise. La troisième intention vous concerne plus particulièrement, vous, chers citoyens de la Suisse. Je pense en cela me faire l'écho de la voix de saint Nicolas de Flux. Ah, si saint Nicolas de Flux pouvait sortir de sa tombe et parler aujourd'hui à ses concitoyens comme il l'a fait lorsqu'il était vivant, et qu'il a fondé, en définitive, cette fédération des États suisses. Combien ce serait utile et nécessaire. Alors, puisque Saint-Nicolas est toujours vivant, puisque nous sommes ici à côté de sa tombe, et que nous sommes venus le prier, puisque c'est sa messe, la sainte messe de Saint-Nicolas de Flux, que nous chantons aujourd'hui, je voudrais me faire son interprète auprès de vous. Savez-vous, bien cher ami suisse, le projet qui se médite actuellement au sujet de vos familles, au sujet de la famille. Un projet qui détruit les fondements naturels de la famille établis par le bon Dieu lui-même. Ce projet est vraiment sorti de l'enfer. Ce n'est pas possible que dans un pays aussi traditionnel que la Suisse, on arrive à demander par un vote qui sera probablement favorable, d'après les échos que nous avons, pour détruire de fond en comble la famille. Le père de famille ne sera plus rien. Il n'aura plus aucun pouvoir. Ruiner totalement l'autorité du père de famille sur sa femme, sur ses enfants. Voilà le projet de la loi. Comme on a détruit l'autorité de Dieu par les droits de l'homme. Comme on a détruit maintenant l'autorité de l'Église, pratiquement, par toutes ces nouveautés, ces synodes, ces conférences, et on a détruit l'autorité épiscopale, eh bien, on veut détruire maintenant l'autorité du père de famille, qui est la base de la société. Ruiner fondamentalement la famille. Alors j'attire votre attention sur ce projet de loi. Il faut que vous réagissiez, que vous ne laissez pas tuer la famille suisse, cette si belle institution créée par le bon Dieu, sanctifiée par le sacrement du mariage, où le bon Dieu a réalisé là, je dirais, quelque chose du ciel. Le père, la mère, les enfants. Qu'y a-t-il de plus beau ici-bas? Le père, protecteur de sa famille, mais chef de sa famille, il est le caput, la tête de la famille. La mère, qui est le cœur en quelque sorte de la famille, mais soumise à son mari. Et les enfants, qui réjouissent le cœur du père et de la mère. Et ensemble, chacun à sa place, le père et la mère travaillent à l'éducation des enfants, à leur formation, à la foi qu'il faut leur donner, à la culture religieuse, aux vertus qu'ils doivent pratiquer. Chacun à sa place, le père à sa place, la mère à sa place. Eh bien, on veut détruire cela en détruisant l'autorité du père de famille. La femme pourra choisir un autre domicile. À la moindre difficulté, elle pourra s'adresser au juge contre son mari. Pour le travail qu'elle opère dans la maison, elle pourra demander un salaire à son mari. Mais a-t-on jamais idée d'une chose pareille? Mais réfléchissez quelques instants à des choses abominables comme celle-là. C'est mettre vraiment la ruine au cœur de la famille. Mais quel amour peut-il y avoir encore entre le mari et l'épouse dans des conditions comme celle-là, voyons? Et les enfants, que vont-ils devenir? Dans un foyer dont les parents pourront vivre séparément, la mère n'ayant plus le nom du mari, gardant son propre nom. Tout cela pour détruire cette institution fondamentale de la société. Alors, mes bien chers amis, j'attire votre attention sur ce problème grave, très grave. Et cela, soyez sûrs, on le commence en Suisse maintenant. Ces projets-là partiront ailleurs, se répandront, comme l'avortement, comme la contraception, comme le divorce, comme tout ce qui a été fait par les francs-maçons contre la famille. Ça commence dans un pays, et puis c'est un autre qui le fait le lendemain, et puis un autre, et puis un autre, et ça se répand dans le monde entier. Projet de Satan contre notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Créateur, qui a créé la famille. C'est lui qui a créé la famille. Il est notre Dieu. Il est le créateur de la famille. Alors pour ruiner l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, on ruine les lois qu'il a mises dans la nature à la création et toutes les grâces qui sont données par le sacrement du mariage. Alors je vous invite à réfléchir à cela avant qu'il soit trop tard. Car cette votation doit avoir lieu dans les mois prochains, dans les mois qui viennent. Or, chose qui dépasse vraiment ce qu'on peut penser, ce qu'on peut imaginer. J'ai vu moi-même, j'ai lu la lettre des évêques suisses à propos de ce projet. Ils l'approuvent. Les évêques suisses, catholiques, approuvent une chose comme celle-là, qui détruit la famille. Est-ce possible? Mais ont-ils réfléchi 2 minutes? Nous en sommes là à ce degré de subversion, de perversion, que les évêques eux-mêmes ne voient plus la foi, à force de vouloir s'aligner sur les idées du monde, sur les idées de ceux qui ne sont pas chrétiens. Ils finissent par perdre les idées fondamentalement catholiques. J'attire votre attention là-dessus. Je ne pouvais pas ne pas vous le dire. Je ne pouvais pas ne pas vous le dire. C'est mon devoir d'évêque. J'ai lu ça avec terreur, suppliant le bon Dieu, suppliant la Vierge Marie, que cela n'arrive pas. Car c'est la fin d'un pays. Quand il n'y a plus la famille à la base de la société, que reste-t-il? Plus rien. Déjà, les divorces ont détruit combien et combien et combien de familles. Ont lancé dans la rue des pauvres enfants, sans père et sans mère, orphelins définitivement, allant de l'un à l'autre, n'ayant plus de maison, alors se droguant, alors devenant des délinquants, alors se donnant au vol. Voilà le résultat du divorce. Alors quel sera le résultat de ces lois nouvelles? Pire que le divorce encore, instituant d'une manière permanente, en quelque sorte, la division entre le mari et la femme. Alors, de grâce, prions Dieu que cela n'arrive pas. Et si à l'occasion, vous pouvez écrire à vos évêques, faites-le pour leur demander en grâce d'être les défenseurs de la famille chrétienne et de la famille tout court, qu'ils réfléchissent à ce qu'ils font. Cette lettre est absolument invraisemblable. Figurez-vous qu'ils ne parlent plus désormais du terme « mariage ». Dans leur lettre, il n'est plus question du mariage. Vous savez que le terme qu'ils ont employé, je le dis en français parce que je ne le sais pas en allemand, mais je pense que c'est la même chose, le « partenariat ». On ne parle plus du mariage, désormais c'est le « partenariat ». Qu'est-ce que cela veut dire? Que le mari et l'épouse sont deux partenaires à égalité, qu'il n'y a plus de différence entre eux, comme deux associés s'entendent pour fonder une société. Le partenariat, je vous demande, sont deux partenaires à égalité. Chose abominable, qui va contre la volonté de Dieu. Alors, je vous demande de prier vraiment et de faire pénitence pour que ces projets-là n'aboutissent pas et que vous gardiez vos bonnes institutions traditionnelles, vos bonnes familles chrétiennes qui ont fait vraiment la grandeur de la Suisse. C'est de ces familles que sont sorties des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de vocations, de prêtres, de religieuses, de missionnaires qui ont sillonné le monde partout. Moi-même, quand j'étais évêque au Sénégal, j'avais beaucoup de vocations suisses là-bas, de prêtres suisses, de religieuses suisses, missionnaires, parce qu'il y avait de bonnes familles chrétiennes. Le jour où ces familles chrétiennes disparaissent, où la famille est détruite, c'est fini. La grâce du bon Dieu n'entrera plus dans ces familles, c'est la ruine totale d'un pays. Alors que Dieu vous fasse prendre conscience de la gravité de ces projets, et que vous fassiez tout, d'abord la prière, Et ensuite, tout ce que vous pouvez faire autour de vous pour empêcher que ces lois puissent venir détruire vos familles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? S'adresser à la Très Sainte Vierge Marie. Notre arme, c'est le rosaire, c'est notre chapelet. C'est le chapelet. C'est la Vierge Marie qui a détruit toutes les hérésies. C'est la Vierge Marie qui a arrêté l'invasion de l'islam dans l'Europe. C'est la Vierge Marie qui a arrêté l'invasion des communistes au Brésil, au Chili récemment. C'est elle, par le chapelet, parce qu'on a prié le rosaire. Alors, les ennemis de l'Église ont dû s'arrêter. Eh bien, les ennemis sont à nos portes. Ils veulent détruire complètement le règne de notre Seigneur chez nous. Prenons le chapelet et prions. Et faisons en même temps tout ce que nous pouvons, avec la grâce du bon Dieu, pour arrêter les ennemis de l'Église, les ennemis de nos âmes, et faire triompher notre Seigneur Jésus-Christ et la Vierge Marie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Geliebte Brüder, in Lourdes und Fatima hat die allerseligste Jungfrau Maria durch die Seherkinder, durch die heilige Bernadette auch, etwas von uns erbeten, ja verlangt. Sie hat gesagt, betet und tut Buße. Und eben das haben sie ja hier getan, in dieser Nacht, gebetet und Buße getan. Gebetet haben sie durch die Anbetung diese Nacht hindurch, durch die Anbetung des Allerheiligsten, aber auch im Beisein, dem Beiwohnen bei der Heiligen Messe, im Rosenkranzgebet. Und Buße haben sie ebenfalls getan, nur schon dadurch, dass sie hierher gekommen sind, zum Teil von weit her und Opfer auf sich genommen haben, dass sie die ganze Nacht ausgeharrt haben, ohne auf ihre Müdigkeit zu achten. Und endlich auch, indem sie das Wetter, das uns der liebe Gott sendet, ertragen. Es scheint, dass der heilige Bruder Klaus uns an diesem Ort immer wieder in die Stimmung der Buße versetzen will. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier Regenwetter ertragen dürfen. Es gibt viele Motive zur Buße, die ich Ihnen nennen könnte, sagt der hochwürdigste Herr Erzbischof. Und ich möchte heute vor allem von dreien zu Ihnen sprechen. Nun, das erste Motiv oder das erste Gebetsanliegen und Anliegen der Buße, das wir hegen wollen, ist die Synode, die in Rom abgehalten werden soll von Ende November bis zum Fest der unbefleckten Empfängnis dieses Jahr. Die Kardinäle werden sich um den Papst versammeln. Wir haben zugleich große Hoffnung auf diese Synode, aber auch große Bedenken. Hoffnung haben wir, weil wir vertrauen auf Gott, auf die allerseligste Jungfrau Maria. Und wir wollen hoffen, dass die Kardinäle um den Papst versammelt, endlich erkennen, wie schwer die Lage heute ist und dass sie wieder den Weg der Tradition aufnehmen mögen. Die Kardinäle, ja selbst Kardinal Ratzinger in seinem Buch, beschreibt diese Situation, aber er scheint nicht den Weg zu sehen, der aus dieser Lage herausführen soll, der zurückführen soll zur Kirche und zu Jesus Christus. Dieser Weg kann allein der Weg der Tradition sein. Wir hegen also Hoffnung, denn Gott ist allmächtig und wir vertrauen darauf, dass unsere Gebete und die Buße bei ihm Erhörung finden. Wir hoffen also, dass die Kardinäle ein klares Wort sprechen mögen, zurück zur Tradition. Was heißt das? Was ist das, die Tradition? Das heißt, die Lehre der Kirche durch 20 Jahrhunderte hindurch aufrechterhalten. Und so hoffen wir also und bitten die allerseligste Jungfrau Maria und beten darum, dass der Heilige Geist gesandt werden möge, damit diese hohen Würdenträger verstehen, worum es geht. Dass wir die Messe brauchen, die Messe und die Sakramente von immer und zu ihnen zurückkehren. Und dass allein Anbetung und Liebe gegenüber unserem Herrn Jesus Christus, der unser Heil ist, die Lösung bringen kann. Und so vertrauen wir darauf, dass Gott die Gebete, die sie zum Himmel senden und ihre Buße, die sie tun, erhören möge. Ich sagte ihnen, so fährt der Erzbischof weiter, ich sagte ihnen, dass wir große Hoffnungen hegen, aber auch große Bedenken. Nach den Reden zu urteilen, die in Rom gehalten wurden vom Sekretär der Synode und die auch veröffentlicht wurden im Osservatore Romano, können wir leider nicht anders als den Eindruck haben, dass es ihr einziger Wunsch sei, weiterzufahren in dieser Orientierung, die in der Kirche herrscht seit dem Zweiten Vatikanum. Und was ist diese Orientierung? Nichts anderes als der Ökumenismus. Eine neue Art, mit den Feinden der Kirche gegenüberzutreten, ihnen zu sagen, ihr seid ja unsere Brüder, gute Beziehungen mit ihnen zu haben, ihnen möglichst Freude bereiten zu wollen und einen Dialog zu führen. Dialog mit den Kommunisten, mit den Freimaurern, mit allen falschen Religionen, dem Islam, den Juden, den Protestanten, die doch immer nur gekämpft haben gegen die katholische Kirche, denen es wesentlich ist, antichristlich zu sein. Ebenso auch die Kommunisten und die Freimaurer, die immer nur gekämpft haben gegen das Königtum unseres Herrn Jesus Christus. In der Kirche hat mal alles entfernt, was diesen missfallen könnte, was sie stören könnte. Und so kam es eben, dass die Protestanten eingeladen wurden, auch mitzuarbeiten, ihre Meinung zu geben bei der Entwicklung der neuen Liturgie, der neuen Messe. Wahrhaftig, es sind große Änderungen eingetreten in der Kirche seit dem Zweiten Vatikanum. Das aber ist nicht die Lehre seit 20 Jahrhunderten, dass nämlich allein Jesus Christus der König ist, dass er allein der Weg des Heils und der Weg zum Himmel ist, dass wir nur durch ihn zum Heil gelangen können. Er sagt ja selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt in den Schafstall, außer durch mich. Ego sum ostium, ich bin die Türe des Schafstalls. Niemand geht ein in den Himmel, außer durch ihn. Und was machen Sie nun anstelle dieses zu sagen, dieses allen zu verkünden, so wie es die Missionare getan haben und ihr Leben gelassen haben? Die Lenker dieser falschen Religionen haben sie massakriert und sie sind alle zu Märtyrern geworden. Ja, die Apostel schon haben immer nur wiederholt und ihnen gesagt, kommet zu Jesus Christus und verlasst eure Götzen. Nur bei Jesus Christus ist das Heil. Tu solus altissimus, tu solus dominus, beten wir im Gloria. Du allein bist der Höchste, du allein der Herr. Jetzt verschweigen sie dies, um nicht zu missfallen. Sie reden von den Menschenrechten, von Philanthropie, aber nicht mehr vom Königtum unseres Herrn Jesus Christus. Aber meine Lieben, dafür sind wir doch Katholiken. Dafür sind wir katholisch, um das Königtum Jesu Christi zu verbreiten und es zu bekennen. beten wir doch alltäglich im Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Das ist es, liebe Brüder, was mir Angst bereitet bei dieser Synode. Man kann doch den Glauben nicht ändern. Man kann doch nicht verleugnen plötzlich und verschweigen, dass er allein der Weg zum Heile ist. Aber für diese Wahrheit, meine Lieben, müssen wir bereit sein, einzustehen, ja selbst unser Blut zu vergießen, wenn es notwendig wäre. Beten wir also, beten wir inständig, dass dieser Weg der Kirche von 20 Jahrhunderten nicht geändert werde, dieser Weg, den alle Päpste und alle Heiligen beschritten haben. Beten wir darum. Das zweite Gebetsanliegen, das ich Ihnen empfehlen möchte, das ist ganz nahe dem ersten. Es ist zu beten für unsere Priester und Seminaristen. Sie müssen die Fackel des Glaubens in die Hand nehmen und sie weitertragen, diese Fackel, die Apostel schon getragen haben. Unsere Priester, die Seminaristen und auch die Schwestern. Sie sind es, die es unternehmen müssen, das Königtum Christi neu zu verbreiten. Und deshalb haben sie die Gnade des Himmels ganz besonders notwendig, damit sie den Glauben bewahren, damit sie treu bleiben der Messe und den Sakramenten, damit sie ihre Familien auch heiligen. Wissen Sie, sagt der Erzbischof, seit ich die Priesterbruderschaft gegründet habe, habe ich etwa 250 Priester geweiht. Und es sind derzeit 162 Priester, die unserer Bruderschaft selber angehören. Dazu etwa 250 Seminaristen. Etwa 50 von diesen anderen Priestern sind unter den Mönchen, bei den Benediktinern in Flavigny und in Bédouin beim Don Gérard, dann auch bei der Kongregation von der Transfiguration beim Abbé Le Carreux, bei den Dominikanern, den Franziskanern von Don Augustin und bei anderen. Und auf ihnen allen ruht heute die Sendung Jesu Christi, die Sendung des Himmels. Sie sind es, die verbreitet sind in der Welt und den Glauben neu entfachen sollen. In Südamerika, in Nordamerika, in Kanada, Australien, in Südafrika und auf allen Teilen der Welt nahezu. Deshalb bitte ich Sie, unterstützen Sie sie durch Ihr Gebet, damit sie dem Glauben treu bleiben, damit sie der Tradition und der Kirche treu bleiben und bereit sein, wenn es notwendig wäre, selbst ihr eigenes Blut dafür zu vergießen. Bitten Sie die allerseligste Jungfrau Maria, dass sie die Lehre nicht abändern, sondern der Lehre der Kirche treu sein. Wie der heilige Paulus schon sagt, Traditisti quod et acceptisti, du hast überliefert, was du auch erhalten hast. Das möchte ich auch einmal sagen können. Am Tage meines Todes, sagt der Erzbischof, Traditi quod et accepti, ich habe weitergegeben, was auch ich empfangen habe, nichts anderes, die heilige Messe, die Sakramente, den Glauben der Kirche durch alle Jahrhunderte hindurch. Und dies mögen auch unsere jungen Priester sagen können, dass sie das weitergeben, was sie empfangen haben von der Tradition der Kirche. Und deshalb vertraue ich sie ihren Gebeten an. Sie brauchen ihre Gebete. Aber auch für sie selber, liebe Gläubige, sie haben sie nötig, sie brauchen sie, damit sie ihnen die Sakramente spenden, das heilige Messopfer feiern, dass sie ihnen zur Seite stehen in all den Schwierigkeiten des heutigen Lebens, gerade auch in der Kindererziehung. Und deshalb zähle ich auf ihr Gebet. Ich zähle auch darauf, dass sie beten für die Berufungen. Normalerweise haben wir etwa 60 neue Berufungen jedes Jahr in unseren Seminaren. Etwa die Hälfte von ihnen verlässt normalerweise das Seminar vorzeitig. Und so sind es etwa jedes Jahr 30 Neupriester, die ich weihen darf. Vertrauen Sie sie also der allerseligsten Jungfrau Maria an, mit dem Anliegen der Treue zum Glauben und zur Kirche. Das dritte Gebetsanliegen endlich. Ich muss mich dazu an Sie wenden, liebe Schweizer Bürger. Und ich möchte mich zum Echo der Stimme vom heiligen Bruder Klaus machen. Wenn er doch nur aus dem Grab heraussteigen könnte und zu uns sprechen könnte, wie er es damals getan hat, um die Eidgenossenschaft zu retten. Was würde er da sagen? Wie nützlich und notwendig wäre dies doch. Wir singen ja heute seine Messe, die Messe vom heiligen Bruder Klaus. Und ich möchte mich deshalb zum Interpreten, zum Wortführer von Bruder Klaus machen. Es ist ein Plan im Gange. Ein Plan über die Familie. Ein Plan, der die natürlichen Fundamente der Familie, die von Gott gesetzt sind, zerstören will. Wahrhaftig ein Plan der Hölle. Es ist doch nicht möglich, dass man so etwas tun kann. Man will abstimmen über die Familie, ob die Familie zerstört werden soll und womöglich, ja wahrscheinlich sogar, wird die Abstimmung angenommen werden. Sie wollen die Familie zerstören. Der Familienvater hat keine Autorität mehr über die Frau und die Kinder nach diesem Plan. Genauso wie man die Autorität Gottes zerstört hat und an dessen Stelle die Menschenrechte gesetzt hat. Genauso wie man die Autorität der Bischöfe zerstört hat durch die Synoden, will man jetzt an die Autorität des Familienvaters greifen und sie zerstören. Ich lenke Ihre Aufmerksamkeit darauf. Reagieren Sie. Lassen Sie es nicht zu, dass die Familie zerstört wird. Diese wunderbare Institution Gottes, geheiligt durch das Sakrament der Ehe. Vater, Mutter und Kind, was gibt es denn Schöneres auf dieser Welt? Der Vater, der das Haupt ist, caput, das Haupt der Familie, die Mutter das Herz und die Kinder, die Vater und Mutter erfreuen. Vater und Mutter sind bemüht um ihre Erziehung, um ihre Bildung, um ihre Kultur, vor allem um ihren Glauben, das Leben in der Religion. Aber jeder an seinem Platz, Vater und Mutter. Und dies, meine Lieben, will man nun zerstören. Die Frau soll künftig das Recht haben, einen eigenen Wohnsitz zu wählen. Sie soll sich ohne weiteres an den Richter wenden können gegen ihren Mann. Ja, sie soll sogar das Recht haben, einen Lohn zu verlangen für die Arbeit, die sie im Haushalt leistet. Hat man denn schon je so etwas gehört? Denken Sie doch. Das ist doch absurd. Welche Liebe kann da noch bestehen zwischen Mann und Frau und zu den Kindern? Was soll aus ihnen werden? Die Mutter soll ihren eigenen Namen behalten können. All diese Dinge, damit will man die göttliche Institution, die so grundlegend ist für die Menschheit, zerstören. Und nochmals sage ich, ich lenke Ihre Aufmerksamkeit darauf, auf dieses Problem, das sehr, sehr schwerwiegend ist. Es wird sich verbreiten, dieser Plan, auch in den anderen Ländern, genauso wie es geschehen ist mit der Abtreibung, mit der Empfängnisverhütung, mit der Ehescheidung. So wird es auch gehen und die Freimaurer werden daran arbeiten. Das ist ein Projekt des Teufels gegen unseren Herrn Jesus Christus, der doch der Schöpfer der Familie ist. Und so zerstört man die Gesetze, die von Gott in die Schöpfung hineingelegt sind. Bedenken Sie das doch. Sehr bald schon wird die Abstimmung sein, in einem Monat. Und ich habe gelesen, sagt der Erzbischof, gesehen und gelesen den Brief, den die Schweizer Bischöfe geschrieben haben. Und darin stellen sie sich vor, heißen sie diesen Plan gut. Sie sind einverstanden. Haben sie denn überhaupt gedacht? Haben sie überhaupt 2 Minuten nachgedacht? Man muss sich wirklich fragen. Sie sehen nicht mehr, wo der Glaube ist, was der Glaube ist. Ja, sie haben die fundamentalsten Gedanken des Christentums verloren, so scheint es. Meine Lieben, ich konnte nicht anders, als dies Ihnen zu sagen. Das ist meine Pflicht als Bischof. Mit Schrecken, ja, mit großem Schrecken habe ich diesen Brief gelesen. Und ich muss Sie deshalb auffordern, zu flehen zu Gott und zur allerseligsten Jungfrau Maria, dass es nicht so weit kommen möge. Denken Sie nur, wie viele Scheidungen schon geschehen sind, was mit den Kindern passiert ist. Sie sind zu Waisen geworden. Sie haben Drogen, sie nehmen dann Drogen, sie reiten auf den Wellen dieser Welt, die lassen sich mitschleppen. Was für ein Elend. Aber jetzt soll es noch viel schlimmer werden. Noch viel schlimmer. Es ist gleichsam so, dass man die Trennung zwischen den Ehegatten, zwischen Mann und Frau institutionalisiert, erhebt. Deshalb fordere ich Sie auf, machen Sie dagegen, was Sie tun können. Wenn es möglich ist, schreiben Sie an die Bischöfe, dass sie das nicht zulassen. Die Bischöfe sprechen in diesem Brief nicht mehr von der Ehe. Sie erwähnen dieses Wort nicht mehr. Sie nennen es jetzt Partnerschaft. Gleichsam, um eine völlige Gleichheit zwischen Mann und Frau zu bekennen. Das sind jetzt nur noch Vertragspartner, gleichsam mit gleichem Recht, auf einer Stufe. Das ist doch widerlich, das ist doch schrecklich. Ja, es ist gegen den Willen Gottes. Und deshalb bitte ich Sie nochmals mit Nachdruck, beten Sie und tun Sie Buße in diesem Anliegen. Von den christlichen Familien seinerzeit gingen viele, viele Berufungen aus. Ich selber habe in Senegal dies erfahren, wie viele Berufungen von Missionaren, von Schweizer Missionaren kamen nach Afrika. Aber damit ist es vorbei. Die Familie ist zerstört und damit auch die Berufungen. Machen Sie also alles, um zu verhindern, dass es so weit komme. Und was können wir tun? Wenden wir uns an die Gottesmutter Maria, flehen wir zu ihr, beten wir den Rosenkranz, das ist unsere Seele. Maria ist es, die alle Häresien überwunden hat, die die Invasion vom Islam zurückgeworfen hat und die vom Kommunismus, weil der Rosenkranz gebetet wurde. Nehmen Sie also den Rosenkranz zur Hand und beten Sie ihn innig und gut. Zugleich unternehmen Sie mit der Gnade Gottes, was Sie können, um diese Feinde der Christenheit, der Kirche, die Feinde Gottes zurückzuweisen. Bitten wir also zur allerseligsten Jungfrau Maria, sie möge dieser Sache eine gute Wendung geben. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.